François Bernard.
Deuxième partie de C'est pas du vent, on vous emmène dans le village de Molly Aoussa. À Molly, l'apiculture est devenue une source de revenus réguliers. Cette activité est réussie d'autant mieux qu'alentour, grâce à la réserve de biosphère, la flore a été préservée. Les abeilles s'y plaisent donc et le miel est abondant, délicieux et biologique car l'emploi de pesticides est proscrit dans le périmètre de la réserve. Les pots de miel sont là, mais ils attendent les clients. Alors, que manque-t-il ? Eh bien, juste un petit peu de promotion, nous dit notre reporter Agnès Rougier.
Être apiculteur à Molly Aoussa, au Niger, une solution d'avenir.
Réalisation Alain Bleu.
Ah, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Agnès Rougier, Radio France Internationale.
Bonjour monsieur.
On est chez vous là, c'est votre miel.
Oui.
C'est parce que moi je parlais en français, mais un peu.
Quel est votre nom?
Ilia, je nomme Ilia.
Ilia.
Le président du apiculteur du Miel Parc National du Développé du Niger, village Molly Aoussa.
Donc là, tous les pots de miel,
oui.
C'est le miel de vos abeilles?
Oui, tout le miel de nos abeilles.
Pourquoi est-ce qu'il y a des pots où le miel est clair et puis d'autres où le miel est foncé? Pourquoi la couleur est différente?
Ça, c'est pour le grain de pied de saumon. Grain de pied de saumon et de capoquier. Tu sais, capoquier,
oui.
le russe.
Oui.
Voilà leur miel.
Traditionnellement, le miel était au Niger un produit noble consommé uniquement par les chefs. Mais aujourd'hui, tout le monde en mange et le miel est considéré comme l'une des solutions pour un développement durable. Car rappelons que nous sommes à Molly Aoussa, non loin des gorges de la Tapoa, dans la réserve de biosphère du parc du W du Niger. L'association des apiculteurs de Molly compte aujourd'hui 26 membres. Et ce sont les Peace Corps, les corps de la paix américains, qui ont aidé à sa création en 1991. Depuis, l'association travaille avec des partenaires comme le Point Afrique, qui vend le miel de Molly dans son hôtel de la Tapoa, l'association La Poulie ou encore le programme européen Ecopass qui a procuré une quarantaine de ruches modernes, du matériel de conditionnement et des formations en 2003 et en 2004. Les bonnes années, la récolte peut donner plus de 350 pots de miel hors consommation personnelle à ce village de Molly Aoussa où nous partons dès maintenant pour y passer toute cette émission.
Bonsoir.
Bonjour monsieur.
Bonsoir.
Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Yeba Lori. Yeba Lori.
Enchantée, Agnès. Ça, c'est les ruches traditionnelles, celles que vous aviez depuis combien? Toujours?
Depuis longtemps, c'est des ruches qu'on a héritées par nos parents. Donc, c'est des ruches anciennes. Donc, c'est le modèle ancien. En fait, partout en Afrique de l'Ouest, on trouve ces arts de ruches-là. On l'appelle la ruche cylindrique. Généralement, il y a deux sortes de ruches qui ressemblent comme ça. Ça, c'est la ruche cylindrique et il y a l'autre ruche qu'on appelle la ruche conique. Donc, en fait, ça, c'est une des ruches qui est vraiment, vraiment répandue partout à cause de sa sensibilité par rapport à la récolte et à la production. Parce que la ruche conique n'est pas comme ça. Mais ça, vous voyez que c'est une ruche qui possède deux entrées. L'entrée des abeilles de cet côté, il possède deux trous d'entrée. Et de l'autre côté, c'est la grande partie qu'on appelle l'entrée du propriétaire, quoi. C'est le côté par lequel on fait la récolte.
Comment ça marche? Ce sont vos abeilles? C'est vous qui les faites venir? Ou sont-elles qui viennent s'installer toutes seules?
Vraiment, les abeilles ne viennent pas s'installer seules. Mais c'est nous qui faisons de quoi pour les attirer. Parce qu'on a des produits, des mélanges des herbacées, qu'on mélange et on enfume la ruche en accompagnant par des exhortations, c'est-à-dire des décantations, qui permettent aux abeilles du sud, du nord ou bien de l'ouest à l'est de venir installer dans votre ruche. Et avoir aussi le miel de bonne qualité de miel abondance, de miel qui sera réparti partout dans le monde. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on fait pour les appeler.
Ah, pour les appeler, en fait, c'est parce qu'elles sentent l'odeur des herbes que vous mettez aussi?
Effectivement, c'est l'odeur qui les attire. D'abord parce qu'il y a des produits qui sont vraiment très parfumés dedans. Donc ils sentent cette odeur-là. Donc parmi les abeilles, il y a une partie qu'on appelle des ouvrières. Les ouvrières, là, elles sortent pour faire la recherche d'un habitat. Donc en cours de recherche, là, dès qu'ils viennent dans la ligne de ce parfum-là, elles doivent sentir et elles vont venir. Petit à petit, elles doivent appeler tous les autres et ils vont faire le contrôle. Enfin, ils vont purifier l'intérieur de la ruche. Et maintenant, ils quittent totalement une fois avoir fait l'éclosion, soit dans une ruche naturelle qu'on appelle les ruches, dans des craies des arbres ou bien des vieilles termitières. Donc ils vont quitter là-bas pour venir s'installer. Ce système-là est lié par rapport au temps de la floraison. C'est une action contre-saisonnière, quoi. Donc c'est ça qui nous permet de les attirer facilement.
Ouais, c'est-à-dire que vous les attirez quand?
Et on les attire surtout dans le mois de février vers mars. Parce qu'à ce temps-là, les abeilles, vous savez, c'est des êtres qui font des immigrations. Et aussi, c'est des êtres qui ont des systèmes qui leur permettra d'avoir échappé à la famine. Donc, ils quittent d'un milieu à un autre milieu pour venir s'installer. Donc, c'est en février-mars jusqu'en avril même, il y a d'autres qui viennent. Mais aussi, en septembre-octobre, si vous avez des ruches qui ont été décolonisées, là, compte tenu de la famine ou bien compte tenu de la pluie, de l'humidité, donc là, vous pouvez les nettoyer pour encore attendre une seconde échémage. Donc ça, c'est la c'est une petite échémage, pas grand-chose.
Oui.
Voilà.
Elles viennent à combien? Elles peuvent habiter à combien dans une ruche comme ça?
Généralement, ce genre de ruche-là, la durée de sa vie ne dépasse pas au maximum 6 à 7 ans. Au minimum 3 ans à 4 ans. Donc la durée de production aussi, 2 ou 3 ans. Et la ruche, quand elle vieillit trop, elle perd encore un peu le poids de la production. Mais quand il est vraiment nouveau, la reine, elle pond chaque année. Donc là, ça vous permet d'avoir beaucoup de miel.
Ah oui.
Voilà.
Combien de miel en temps normal pour une ruche en pleine forme?
En pleine forme, oui. Une ruche traditionnelle comme celle-ci-là, ça produit autour de 9 à 10 litres. Parce que c'est contre la ruche moderne. Donc la ruche moderne, elle produit environ 15 litres par an. Donc, et encore, ça dépend des périodes aussi, des récoltes. Parce que certaines années, les périodes de récolte ne sont pas très favorables compte tenu du manque de pluie ou bien du manque de la floraison.
Et comment vous savez qu'elles vont aller butiner telle fleur ou telle fleur, Yenye Balori?
Et depuis la création de l'univers, les arbres, la flore, les êtres humains, les abeilles, ils sont créés ensemble. Donc la fleur, elle contient un liquide là qu'on appelle du nectar. Le nectar se trouve au fond de la fleur. Au-dessus de la fleur, il y a la pétale et encore les étamines. Donc tous ces éléments-là permettent d'attirer cette odeur-là qu'ils sentent. Ils sentent ça comme du parfum et ça les attire de venir. Dès qu'ils butinent le pollen là, sur les étamines, c'est ça qui les attire.
Ouais. Ouais. Alors quand même, il y a des. On a vu dans les pots, il y en a qui sont à partir de fleurs de capoquier et d'autres. La couleur n'est pas la même. Ça veut dire que les fleurs butinées ne sont pas les mêmes.
Ils ne sont pas les mêmes parce que ici, on n'a pas des fleurs qui sont uniques. C'est-à-dire des fleurs qu'on peut dire à cette période-là, nous allons récolter le miel de ceci-là et laisser l'autre-là. Seulement dans le mois de février-mars qu'on arrive à récolter le miel du Combretum glutinosum. Ça, c'est une des miels simples. C'est la fleur simple. Celles qui ont des couleurs un peu foncées là, c'est du miel là. C'est pas le capoquier. Le capoquier, on est dans la période du début de la floraison des fleurs de capoquier. Donc le capoquier ne donne que du miel qui est un peu marron. Ça, c'est du miel là. Le miel là, les abeilles arrivent à voir ça au moment où les pieds de chameau ou bien les cassias, ces verena commencent, les fruits commencent à mûrir. Donc quand les fruits là commencent à mûrir, ils font sauter une liquide là qu'on dit que les fruits là ils pleurent. Donc, dès que les abeilles viennent, immédiatement, ils s'accrochent aux fruits pour prendre ce liquide-là. Donc, ce liquide-là, une fois qu'ils arrivent à mettre ça dans leur cellule des alvéoles, donc, par fini, ils vont bien le ventiler et vont obtenir vraiment une liquide qui contient du miel. Donc, c'est ça qu'on appelle le miel.
Est-ce qu'on peut aller voir les ruches modernes, s'il vous plaît?
Certainement, certainement. On peut les voir.
Elles sont un peu loin du village?
Les ruches?
Ouais.
Oui, ils sont un peu loin, c'est à quelque 300 ou 400 mètres. Voilà, ça va.
On y est?
Oui. Vous voyez, comme vous avez demandé des capoquets,
c'est maintenant. C'est ça le capoquet?
C'est ça le capoquet. Il commence à fleurir maintenant.
Ouais. Ouais. Et ça, alors là, montrez-moi, c'est ça?
Ça, c'est le pied du chameau. Oui, pied du chameau. Malheureusement, ça n'apporte pas de fruits maintenant.
Donc, c'est un arbre qui a des petites feuilles rondes, vertes, et donc des gousses qui ressemblent à des gros haricots.
Voilà.
Ah, et voilà les ruches, on les aperçoit là.
Oui. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le pied du chameau. Avec des folioles, un petit défoulé.
Alors, ça, ce sont les ruches modernes qu'on voit devant nous.
Ouais, c'est les ruches modernes. C'est les ruches qui ont été fournies par la poulie. Vous voyez la marque de la poulie devant, c'est autour de toutes les ruches. Donc, c'est des ruches qui sont vraiment très résistantes, qui sont vraiment efficaces contre le soleil, contre l'humidité aussi. Ces ruches qui ne sont pas encore récoltées, parce que le miel n'est pas encore operculé.
Ah. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire operculé?
Operculé, c'est-à-dire entamer la mise du nectar. C'est-à-dire que le nectar là, et ils vont ventiler ça jusqu'à ce que l'eau là qui est dans ce nectar là soit complètement évaporée. Et maintenant, ils vont boucher toutes les parties de cet alvéole là. C'est à ce moment là qu'on dit que le miel est operculé, c'est-à-dire qu'il est mûr. Si le miel n'est pas operculé, il ne peut pas être conservé. Il se fermente facilement.
Si on les décrit, ces ruches modernes, ce sont des caisses qui font peut-être un mètre de long, 50 cm de large et 50 cm de haut. Et à l'intérieur, sous le couvercle, comment est-ce disposé? Il y a des ballories.
Et nous allons faire un petit tour, nous allons voir une ruche qui est désertée là. Vous allez voir comment est la vue intérieure de la ruche.
D'accord.
Comment on a placé.
Je vous suis.
Vous savez pourquoi on passe par ici? C'est toujours pour éviter. Parce que quand on passe de l'autre côté, il y a le vent qui apporte notre odeur. Donc les gardiens qui font le gardiennage, ils vont sortir immédiatement pour nous attaquer.
Donc là, on se lève le couvercle.
Ok, vous voyez comment est...
Ah, donc, ce sont des petites... lames de bois,
oui.
Sur lesquelles elles vont aller accrocher
la cire.
C'est
ça qu'on appelle les amorces. C'est ici qu'ils vont construire leurs rayons, à travers en bas.
Donc en fait, là, si la ruche était habitée, il y aurait un rayon, c'est comme ça qu'on dit?
Oui.
Par barre de bois.
Barre de bois. Chaque barre de bois porte un rayon du...
Ce qui en mettrait combien? 1, 2, 3, 5,
27. 27 normalement. Et... vous voyez, quand ils rentrent de cet côté-là, ils construisent de ce côté-là vers là-bas. Donc, cet côté-là doit être une partie qui contient un peu du miel, un peu de pollen, un peu de couvain. Vous voyez? Donc, ces parties-là, c'est, quoi que ce soit, c'est obligé de laisser ça. C'est un réserve pour l'élevage. Et l'autre côté, qui peut être récolté.
Donc là, la récolte par rapport à la ruche traditionnelle est énormément plus facile.
Énormément plus facile, parce que ici, vous n'êtes pas dérangé. Vous êtes en tenue. Vous avez tous les armements, à savoir les enfumoirs, le couteau, le lève à cadre, la brosse, et tous les ensembles.
Vous en avez combien des équipements?
On a environ 16 équipements qui permettent à tout le monde en période de récolte, parce que les récoltes se font dans les mêmes périodes, mais pas dans les mêmes jours. Donc tout celui qui arrive à finir, il ramène l'équipement au niveau de l'association.
Les équipements, les ruches sont la propriété de l'association?
Non, les ruches sont contribuées à tout le monde.
D'accord.
Chaque apiculteur a ses propres ruches qui doit s'en occuper.
Et comment est-ce que vous vendez vos pots de miel maintenant?
C'est à l'hôtel qu'on vend. D'accord. Ces pots de miel. Et aussi, il y a certaines qui viennent du Niamey qui en achètent. Des fois aussi, il y a les touristes qui achètent le miel. Et même des fois, les gens du village et d'autres aussi, même au niveau du marché, on vend du miel.
Donc d'avoir travaillé avec d'autres partenaires, ça vous a apporté beaucoup?
Oui, ça nous a apporté beaucoup, parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidé, et surtout les matériels.
Ouais. Et tout le village en profite? Les retombées vont vers tout le monde?
Oui, oui, tous les villages en profitent, parce que dans chaque famille, il y a des apiculteurs. Dans chaque famille, il y a des apiculteurs, et en même temps, S'il s'agit de faire une contribution, soit une construction d'une école ou bien aider un peu les gens du village, comme ça on contribue un peu.
Vous faites des échanges avec d'autres villages d'apiculteurs, vous échangez des techniques, vous échangez des abeilles.
En fait, au Niger, ici, c'est le seul village qui est vraiment au centre de la réserve de biosphère, qui est très dynamique dans cette activité-là. C'est-à-dire dans d'autres villages, en partant de Tamou, à partir de Ogourou, on est jusqu'à présent en train d'essayer de voir s'ils peuvent en avoir. Mais fort malheureusement, ils nous ont perdu toutes les arbres, les espèces mellifères. Donc là, c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de miel, ils ne sont pas vraiment très efficaces dans cette activité-là.
Oui. Ah d'accord, donc la différence c'est que comme vous êtes sur la réserve ou au bord de la réserve,
oui,
il y a toutes les espèces dont les abeilles ont besoin.
Oui, c'est certainement.
Donc vous avez tout intérêt à ce que la réserve continue.
Oui, c'est ça. On protège ça, on lutte contre ça. Parce que ici, tout ce qui a détruit la nature, a détruit l'environnement, on est contre ça. Hein? Sans plantes végétales, il faut dire qu'il n'y a plus de miel aussi. Voilà.
On retourne au village. Bon, il faut que je vous achète quelques pots de miel avant de partir. Hein.
Okay.
C'est celui que j'ai goûté ce matin à l'hôtel de la Tapoa.
Ah, vous avez goûté du miel là-bas?
Oui.
Ah oui, c'est ça.
Excellent. Je vous le dis, excellent.
Excellent.
Et tous les ans, vous le goûtez pour voir s'il est meilleur que la fois d'avant, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer, etc. Vous le goûtez à chaque fois quand même, comme du vin ou comme, comme un produit du terroir.
Et tout le monde le goûte. Et seulement, c'est la cire seulement qu'on utilise pour faire de la pommade ou bien des bougies.
Et quand vous faites des bougies ou de la pommade, c'est des choses qui sont pour le village ou bien c'est des choses que vous pouvez aussi vendre?
Ça, c'est un métier des femmes. Donc, les femmes, elles ont suivi une formation. Mais les femmes n'arrivent pas à faire la vente parce que le problème, c'est l'emballage. Là où on peut mettre ces pommades-là, qu'ils soient dans un endroit où on n'a jamais utilisé. Donc c'est ça qui est un peu difficile pour les femmes.
Eh oui, parce que pour le miel, vous avez des pots maintenant.
Oui.
Pour que ça se conserve, il faut que ce soit hermétiquement fermé.
Non, on laisse ça comme ça. Ça ne devait pas être hermétiquement fermé.
Ah bon, il n'y a pas besoin.
Oui, oui. Elles peuvent se conserver autour d'un an sans se fermenter.
Santos, vous êtes garde forestier ici à la Tapoa, dans la réserve du W Niger. Alors je suppose que, comme tout le monde ici, vous mangez le miel de Moli, mais est-ce qu'il est connu ailleurs, ce miel délicieux? Est-ce que vous en parlez à l'extérieur aussi?
Nous-mêmes, quand on va dans les grandes villes, on fait la publicité, on dit que c'est le bon miel. Parce que c'est devant nous, on crée ça, donc il n'y a pas de mélange, c'est le miel bio.
Et puis c'est du miel écologique, parce qu'ici, il n'y a aucune agriculture avec des pesticides. C'est...
Non, il n'y a pas.
Donc c'est vraiment du miel biologique.
C'est du miel biologique. Vraiment, c'est du bon miel aussi.
Ah, il est très bon, hein. C'est celui que j'ai goûté ce matin, il est excellent.
Voilà, c'est du bon miel.
Donc il faut en parler pour qu'ils puissent continuer à enrichir leur expérience et leur savoir.
Voilà, et ils sont d'accord maintenant qu'ils ont vu du bonbon fait à travers du miel. Même moi, j'étais étonné, j'étais impressionné. Parce que moi, je ne pense pas si à travers du miel, on peut faire du bonbon, non? Mais j'ai vu concrètement, j'ai vu ça de mes propres yeux, donc... Je suis convaincu.
Ah oui, on peut faire beaucoup de choses avec le miel, c'est vrai.
Ah, beaucoup de choses. Mais nous-mêmes, on sait qu'on a des problèmes de moyens. C'est ça qui nous manque maintenant.
Des moyens de fabrication, mais également des moyens de promotion. Voilà ce qui manque encore pour que nous tous puissions enfin profiter des vertus du miel de Moli Aoussa. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à Moli au Niger, essayez d'envoyer un mail à l'hôtel.afrique de la Tapoa à l'adresse contact@hoteltapoa.com, contact@hoteltapoa.com, ou encore vous pouvez téléphoner au 227 pour le Niger, 227 96 87 46 05, 227 96 87 46 et 05. Cette émission est terminée. Nous vous remercions de votre présence et de votre attention. Au revoir.
Parce que la vie t'a pas revenu plus. émission de Radio France Internationale, produite en partenariat avec le réseau MAB UNESCO, la Commission canadienne de l'UNESCO et le Fonds français pour l'environnement mondial.
Hey, le miel de Molly, ça fait envie, non ? Allez, reportage d'Agnès Rougier, mis en onde par Alain Bleu, c'est ce qu'on vient d'écouter. Demain, notre reportage nous emmène au Sénégal, dans la baie de Han. Mais pour l'instant, retrouvons TerraTech et Dominique Dezonnet à propos du premier avion à énergie solaire.
Bonjour et bienvenue dans TerraTech. Près de 12 000 cellules solaires sont intégrées dans ces ailes. Elles alimenteront en énergie renouvelable ces quatre moteurs électriques. C'est le premier avion solaire, zéro carburant, donc zéro pollution dans un instant.
TerraTech Actu.
En bref. Des nouvelles de la planète avec notre expert Jean-Paul Hébrard, rédacteur en chef du mensuel Agriculture et Nouvelles Technologies. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour à tous.
C'est l'été, il fait beau, vous aimez peut-être surfer dans un parc au soleil sur votre ordinateur. Le problème, Jean-Paul, c'est la luminosité.
Oui, vous avez sûrement remarqué que dans un environnement très éclairé, la lisibilité de votre écran est plutôt mauvaise. Pixel QI vient de sortir un nouvel écran qui présente deux modes. Le premier, le mode transmissif, c'est celui que l'on rencontre normalement sur tous les écrans LCD. Et puis il y a un nouveau mode, le mode réflectif. Lorsqu'il y a trop de lumière, il suffit de tourner un simple interrupteur pour passer en mode réflectif.
Sans rétroéclairage, la lisibilité est améliorée et ça consomme en tout cas moins d'énergie que le mode transmissif, plus performant tout de même sous une luminosité normale.
TerraTech, l'entretien.
Solar Impulse, une véritable révolution dans le domaine du développement durable. C'est le premier avion solaire, il utilise l'énergie du soleil, consomme zéro carburant et engendre donc zéro pollution.
Le vol perpétuel, c'est maintenant possible. Grâce à une maîtrise totale de l'énergie solaire, les vols seraient possibles de jour comme de nuit. De nombreux partenaires se sont associés au projet, c'est le cas du groupe chimique et pharmaceutique Solvay.
Claude Michel est manager du partenariat avec Solar Impulse chez Solvay.
Il est né exactement en 2003, donc il est sorti de l'esprit de Bertrand Piccard après qu'il ait eu fait son tour du monde en ballon. Et donc la préétude a montré qu'on pouvait rééditer le même tour du monde, mais cette fois-ci en l'absence de toute goutte d'énergie fossile. Et la préétude faite par l'EPFL, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, a montré qu'un planeur amélioré, c'est-à-dire équipé de cellules photovoltaïques sur ses ailes, pourrait faire l'affaire. C'est un planeur géant. Pour pouvoir emmener un homme en toute sécurité, en vol à l'énergie solaire, le jour et la nuit, parce que c'est bien ça la difficulté, eh bien il faut un planeur qui a une envergure de plus de 60 mètres pour un poids minimum de 1,5 tonne. Donc une très très grande envergure pour une structure extrêmement légère.
Et là, je vois quatre moteurs, alors que moi, je me rappelle du projet initial, il n'y avait que deux moteurs.
Alors tout à fait, vous avez bonne mémoire, la première présentation du prototype était équipée de deux moteurs. Mais on s'est rendu compte, en poursuivant les études, que si jamais on avait un problème avec un moteur, une telle envergure ne pouvait plus continuer à voler avec, disons, une traction asymétrique. Maintenant, avec quatre moteurs, une panne d'un côté, on éteint le moteur symétrique et on continue le vol.
Comment on a fait pour optimiser ce genre de capteur photovoltaïque ?
Au tout début du projet, on était sur des cellules qui avaient un rendement de 18,5 à 19% et pour une épaisseur de 180 microns. Et bien maintenant, on est toujours avec le même silicium monocristallin, mais on a un rendement de 22% pour une épaisseur maintenant moins de 150 microns. Donc on a gagné probablement entre 15 et 20% d'efficacité poids. Ne serait-ce que sur les cellules photovoltaïques. Alors, c'est un espèce de laboratoire volant, comme je me plais à le dire, dans différents domaines, dans le photovoltaïque, mais aussi dans les batteries. N'oublions pas que pour voler la nuit, il faut des batteries. Et je suis personnellement convaincu que les plus grands progrès et les plus rapides à venir seront dans le domaine du stockage de l'énergie dans les batteries. Un autre domaine où on a beaucoup progressé, c'est la légèreté de la structure. Légèreté, batterie, vous voyez que ça s'applique à l'avion, mais ça peut très bien demain s'appliquer à l'automobile ou à tout autre engin de mobilité et de déplacement. rapidement. On peut dissocier le système photovoltaïque du système de stockage et profiter de l'un et de l'autre, de l'un ou de l'autre, d'une façon séparée. Le photovoltaïque sur une maison ou sur un endroit de parking où on recharge les batteries des voitures et la voiture part, mais uniquement avec ses batteries. Alors, le tour du monde, c'est pas pour maintenant. Les prochaines étapes, c'est la présentation de l'avion fini au public, puis les premiers tests en vol. Là, on est à la fin de l'été. Le premier vol mythique, je dirais, enchaînement jour, nuit, jour. Là, on est en 2010. Et finalement, le tour du monde en 5 étapes à l'horizon 2011.
Vous l'avez compris, TerraTech, c'est terminé. Retrouvez toutes ces infos en ligne sur www.rfi.fr ou encore www.tvagri.info. Et si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire à terratech@rfi.fr.
Merci Dominique Dezonnet. Demain, on s'intéresse aux énergies renouvelables utilisées pour l'éclairage public et routier. Restons-en là pour aujourd'hui. Remercions, comme c'est l'usage, tous ceux qui ont participé à cette émission. Sophie Janin, Delphine de Dianous, Maxime Anna et Fabien Mugnoret. Rendez-vous demain et surtout, grand moment désormais dans C'est pas du vent. Tâchez de reconnaître en quelle langue on vous dit la devise de l'émission « Même planète, même heure ». Vous êtes prêts? Alors écoutez bien. Alors, mais oui, c'est du turc. Vous êtes très fort. Merci Ur et rendez-vous sur internet rfi.fr. À demain.